Bonjour à toutes et à tous, 48e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Eh oui.
Alors Vincent, il y a 15 jours, lors de la précédente émission, je crois que tu nous avais annoncé pour celle-ci qu'on allait prendre la direction de Cap de Nac, non c'est
J'avais dit peut-être.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être. Il y avait
Eh bien finalement, oui.
Ah
Alors, comme promis, nous partons aujourd'hui pour Cap de Nac, gare.
Oui.
Alors, il faut faire attention parce qu'il y a Cap de Nac, les trois sont à côté. Hein.
Ouais.
Cap de Nac, gare dans l'Aveyron, Cap de Nac, port dans le Lot.
Oui.
Et Cap de Nac, le haut, très beau Cap de Nac, le haut, fortifié, qui est également dans le Lot. Donc, nous restons, mémoire aveyronnaise reste en Aveyron,
ouais.
Avec donc Cap de Nac, gare. Donc, tout à fait à la limite
ouais.
Du département du Lot.
Ah, je connais, je passe par là quand je remonte à Paris. Ah bah, quand je vais remonter là, d'ailleurs, pour la fête de Noël, je vais passer par Cap de Nac.
Eh ouais, c'est une des routes, c'est un des accès vers le nord. Alors, en fait, nous allons nous plonger dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale.
Ah.
En ma qualité de, comme tu viens de le dire, en ma qualité de président du comité de Rodez du souvenir français, j'ai la grande chance et j'ai aussi l'honneur d'être correcteur et membre du jury du CNRD.
Oui.
Qui est en fait le concours national de la résistance et de la déportation.
D'accord.
Alors moi, je suis correcteur et membre du jury, bien sûr, pour le département de l'Aveyron.
Ouais.
Hein. Cette année, nous avons eu la chance de nous retrouver pour le lancement du concours à l'ITEP de Massip, qui se trouve en bordure de Cap de Nac gare.
D'accord, ok. L'ITEP de Massip.
L'ITEP, alors, des Casaco.
Si, moi je connais parce que j'ai reçu des jeunes de l'ITEP.
C'est quoi ?
C'est des jeunes en difficulté diverses et variées qui sont mis dans des établissements pour leur apprendre un petit peu un métier.
C'est ça, ITEP, c'est Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique.
Ouais.
En fait, ce lieu accueille des enfants en rupture, soit ils présentent des troubles familiaux ou des troubles psychologiques ou du comportement.
Ouais.
Voilà. Donc c'est l'ITEP, on a été reçus dans ce bâtiment.
Mmh.
Pourquoi, tu me diras, en fait, ce lieu était vraiment parfait pour la réunion pour lancer le CNRD, car entre 1942 et 1944, ces lieux ont servi de cache pour des enfants juifs et aussi quelques adultes.
Ah d'accord, les locaux tu veux dire ?
Les locaux.
Ok.
Ouais. Alors avant d'être l'actuel ITEP,
ouais.
Ces bâtiments ont abrité une école de jeunes filles qui appartenait aux religieuses de la compagnie des filles de Marie Notre-Dame.
D'accord.
Les religieuses de cette congrégation, en fait, elles ont une particularité.
Mmh.
On les appelle madame et non pas ma sœur.
Ouais.
C'est vraiment particulier.
Bah,
normalement, une religieuse, c'est ma sœur.
Bah oui.
Parce que, en fait, la fondatrice, qui est une sainte bordelaise qui s'appelait Sainte Jeanne de Lestonnac,
mmh.
était veuve et également mère de famille lorsqu'elle a fondé cette communauté en 1607.
D'accord.
En plus, elle était noble. Donc, elle, c'était madame.
Ouais.
Et les religieuses sont devenues également madame. Pour ceux qui ont connu, moi, j'ai connu parce que j'ai été dans cette école,
ouais.
pas à Massip, mais plus proche. Ce sont les mêmes religieuses qui étaient, il n'y a pas encore si longtemps, à l'école Sainte-Geneviève de Rodez,
ouais.
ainsi qu'à l'abbaye du monastère.
Ah, d'accord.
Voilà, Sainte-Geneviève de Rodez,
ouais.
les religieuses, moi j'ai connu les dernières religieuses, j'y
ouais.
suis allé, alors je suis un garçon, hein,
ouais.
mais j'y suis allé quand c'était une école de filles,
ouais.
quand ça s'est ouvert, quand c'est devenu mixte,
uh-huh.
et moi je me rappelle, c'est vraiment surprenant pour des religieuses, voilà, on les appelle madame,
ah, d'accord.
C'est curieux.
Ok, oui, c'est sûr.
Alors au mois de décembre 1942, Monseigneur Jules Saliège, archevêque de Toulouse, et son coadjuteur, coadjuteur, c'est un évêque qui est là pour l'aider, en fait.
D'accord,
son
adjoint.
Son adjoint, en quelque ouais. sorte, oui. Monseigneur de Courrèges convoque Madame Denise Bergon,
mmh.
qui est la supérieure du couvent de Massip.
Mmh.
Il lui demande d'accueillir et de protéger le plus d'enfants juifs qu'il leur sera possible.
Ouais. Attends, juste,
oui.
Décembre 42, il y a toujours la zone, ce qu'on appelait la zone libre, hein, où c'était déjà...
Non, en novembre.
D'accord.
Ouais,
ah ouais,
c'est
ça venait de.
Ça venait de basculer.
Ok.
Je rappelle pour les auditeurs, vous pouvez ouais. le retrouver dans nos anciens podcasts.
Ouais.
Les Allemands arrivent à Rodez le 11 novembre 42. Mais déjà, il y a eu des. Je vais en parler. Il y a eu beaucoup de déportations,
bah, oui,
de rafles de juifs avant,
bon.
Puisque le gouvernement de Vichy, même alors que les Allemands n'étaient pas en zone libre, pour faire plaisir aux Allemands, c'est la collaboration a déporté, a raflé beaucoup de juifs qui ont été déportés par la suite.
Ok.
Alors la religieuse en fait accepte, mais elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour une religieuse. Non mais tu vas voir, elle s'inquiète d'être obligée de mentir pour pouvoir protéger ses enfants.
Ah oui.
Et Monseigneur Saliège lui répond une très belle phrase, moi j'adore cette phrase, « Vous aurez à mentir. Mentez, mentez donc. Toutes les fois que cela sera nécessaire, je vous donnerai par avance toutes mes absolutions. »
D'accord, très bien.
C'est joli quand même. Alors Monseigneur Saliège, il est très très connu, c'est un héros de la résistance, reconnu juste parmi les nations, parce qu'il a participé notamment là, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce sauvetage pour le couvent de Massipes. Il a été reconnu donc juste parmi les nations. Et en août 1942, il dénonce publiquement dans une lettre pastorale, août 1942, ouais. Les premières déportations de juifs perpétrées par le régime de Vichy, ouais, ouais. Première rafle. Il prend vraiment l'incroyable risque de faire lire en pleine messe par tous les prêtres de son archevêché. Et l'Aveyron fait partie de l'archevêché de Toulouse, y compris donc en Aveyron. Moi, j'ai la chance d'avoir un exemplaire original de cette lettre dans ma collection. En fait, je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment très belle et puis elle est vraiment tout à fait dans le thème de notre propos d'aujourd'hui. « Mes très chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaître des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. » On peut les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d'épouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Ressébédou. C'est des camps qui se trouvent au sud de Toulouse. Uh-huh. Les Juifs sont des hommes. Les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes. Les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ses pères et ses mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères, comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée. France qui porte dans la conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine. France chevaleresque et généreuse. Je n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes chers frères, l'assurance de mon respectueux dévouement, Jules Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, le 23 août 1942. Ah. C'est beau, hein ?
Oui, très bien.
C'est vraiment très, très
bravo.
Beau. Alors, seule Denise Bergon, la directrice de Massipes, et Marguerite Roch, son bras droit, donc qui est également religieuse, hein, sont au courant de l'origine de ses enfants. Les autres religieuses n'en savent rien pour des raisons de sécurité. Uh-huh. Moins il y a de secrets, de personnes au courant du secret, tu vois, plus il y a de chances qu'ils soient gardés. Les deux religieuses sont aidées par Mademoiselle Louise Thèbes, qui est une secrétaire des œuvres du diocèse de Toulouse. Au péril de sa vie, elle accompagne ses réfugiés de Toulouse jusqu'à Massipes. Ce sont au total, tu vois, c'est énorme, 83 juifs,
ah, ouais.
dont 71 enfants,
ah, ouais.
Qui sont cachés dans cette école. On les fait passer pour des réfugiés alsaciens et lorrains. Mais oui, forcément, tu sais, dans l'Aveyron de cette époque, tout le monde connaissait tout le monde,
ah, ouais.
donc tout étranger ouais. était suspect. Pour que l'illusion soit parfaite et que personne ne se doute de rien, ils doivent obligatoirement assister aux messes et apprendre les prières catholiques sans toutefois qu'on cherche à les convertir. Mm-hmm. C'est vraiment pour faire bonne figure et voilà, pour tromper l'ennemi, c'est le cas de le dire. Les jeunes filles suivent leur scolarité à Massipes et les jeunes garçons à Saint-Julien-d'Empare, tout proche de Massipes. Denise Bergon enterre au milieu de la cour, dans une boîte métallique de masque à gaz de la défense passive, tous les documents qui prouvent la véritable identité de ses enfants. Et oui, en cas de perquisition, en cas de rafle, si on tombe sur des documents comme ça, c'est tout le couvent qui empathie. Il y a un très beau film, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, un vieux film qui s'appelle « Au revoir les enfants ».
Ah non, je l'ai pas vu.
C'est un film pareil où c'est une communauté, c'est des prêtres qui protègent des juifs. Ils sont dénoncés Et le directeur est déporté avec les enfants juifs qu'il a cachés. Et au revoir les enfants, c'est le titre, c'est la très belle phrase qu'il dit quand les Allemands l'emportent à la fin du film. C'est vraiment très beau. Alors, une trappe a été aménagée dans le plancher de la partie de la chapelle réservée à la prière des sœurs. C'est une partie qu'on appelle la clôture. Mmh. C'est vraiment une toute petite partie avec une grille pour pas être mélangée pendant la prière aux fidèles. Elle conduit à une sorte de vide sanitaire sans aucune lumière où l'on ne peut tenir qu'à quatre pattes ou coucher. Hein. Donc tu vois, comme cachette, c'est... Mais bon, quand il faut se cacher, il faut se cacher. Oui. Tout est bon, même si c'est très étroit et il n'y a pas de lumière. C'est peut-être les endroits justement où on bien caché comme ça, où on va te chercher le moins. On pouvait y cacher jusqu'à 7 enfants. Certaines jeunes filles y ont passé des nuits où l'on craignait justement des rafles. D'après les témoignages, elles en gardent vraiment, elles ont gardé un souvenir vraiment affreux de cette cachette. Moi, j'ai eu des témoignages comme quoi certaines personnes, des années, des décennies après, même souffraient de claustrophobie dans les lieux tout noirs et puis étroits, parce que vraiment, à 7, à mon avis, moi je l'ai vu, on ne devait pas avoir énormément de place. Hein. Pour les autres enfants, la consigne était donnée aux plus grandes de prendre une petite par la main en cas d'alerte et de s'enfuir se cacher dans la forêt tout au proche. Uh-huh. Tu vois, c'est un peu dérisoire. Hein. Les Allemands arrivent, on va se cacher dans la forêt. Ouais. Mais bon, écoute, malheureusement, il n'y a que ça. Puis, tu as vu, la quantité, c'est vraiment énorme. Hein. Ouais. Je ne sais pas exactement combien il y avait d'élèves dans cet internat, dans cet établissement, mais... ça devait être assez important quand même. Un soir de juillet 1944, les Allemands pourchassent dans tout Capdenac des résistants qui venaient de faire sauter des installations de la gare. Mmh. Je te dis pas la chasse dans Capdenac. Hein. Ouais. Les religieuses et les enfants entendent des coups de feu qui sont vraiment pas très loin, qui sont tirés par les Allemands, et des résistants seront exécutés, là, seront fusillés. Et là, vraiment, tout le monde tremble de peur et se tient prêt à s'enfuir à la moindre vue d'un uniforme vert de gris, parce que vraiment, ils essayent de fouiller plein de maisons pour retrouver tous les résistants qui se sont échappés et qui se cachent. Ce soir-là, les religieuses ont beaucoup prié, et Denise Bergon a fait le vœu d'élever un monument à la Vierge Marie après la guerre, si tout le monde réussissait à survivre cette terrible nuit, ainsi qu'à la guerre.
Ah oui.
Et quand on est religieux, la prière, malheureusement, c'est souvent ce qui reste. Heureusement, aucun soldat allemand ne rentrera jamais dans l'enceinte de l'école.
Tant mieux.
Toujours proche, mais jamais dans l'enceinte. Denise Bergon et Marguerite Rock ont toutes deux risqué vraiment leur vie pour sauver ces enfants, qui ont témoigné, après-guerre, de l'immense amour maternel et de la très grande douceur qu'elles avaient su leur donner en ces temps difficiles. Mmh. Vraiment, apparemment, c'était deux personnes extraordinaires. Et puis, là, comme je viens de le dire, d'un amour et d'une générosité vraiment très, très grande. Ces deux religieuses ont été récompensées pour leur sauvetage et leur grand courage en 1980.
Ah bah dis donc, ça a mis le temps.
Ça a mis le temps.
Ah ouais, dis donc.
Mais mieux vaut tard que jamais.
Ouais, ouais, mais enfin, c'était juste là quand même. Hein.
C'est juste, ouais. Ouais. En fait, ouais, mais c'est long parce que si tu veux, il y a des recherches à faire, il y a des dossiers. Ouais. En fait, elles ont été reconnues, elles ont reçu le titre de juste parmi les nations, mm-hmm, décerné par l'État d'Israël. Ouais. Tu sais, c'est pas une mince affaire.
Ouais, ouais.
C'est vraiment relativement long. Mm. Et puis, il faut que quelqu'un le demande aussi.
Ah bon. D'accord.
Et vu l'humilité de ces deux femmes, c'est pas elles qui l'ont demandé.
Ouais, peut-être, oui.
Alors, les hommages, tu sais que j'aime bien finir par les hommages. Deux plaques commémoratives ont été posées au couvent de Massip. La première se trouve dans la cour, tout près d'un grand cèdre qui a été planté à l'endroit même où Denise Bergon avait enterré les documents personnels des enfants. Uh-huh. Voici ce que l'on peut lire. Ce cèdre a été planté le 5 avril 1992 en souvenir du sauvetage de 83 juifs, enfants en majorité, de décembre 1942 à juillet 1944. La seconde plaque a été dévoilée en 2000 tout rond,
ouais,
sur le mur extérieur du couvent, près de l'entrée de la chapelle. On peut lire « En ce lieu, de décembre 1942 à juillet 1944, 83 enfants juifs ont été sauvés de la barbarie nazie par Denise Bergon et Marguerite Rock, filles de Notre-Dame, et Mademoiselle Louise Thèbe, à la demande de Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, et de Monseigneur de Courrèges. » Denise Bergon a tenu parole, avait prié donc, que si tout se passait bien, elle élèverait un monument en l'honneur de la Vierge Marie. Elle a fait ériger une statue, une très belle statue qui se trouve toujours dans la cour. Oui. On peut toujours la voir.
D'accord.
Elle a été inaugurée en juillet 1954, 10 ans tout juste jour pour jour après cette terrible nuit d'angoisse. Donc tu vois, il a fallu là aussi 10 ans, mais le couvent était relativement pauvre. Mmh. Les pauvres religieuses ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Elles ont été, je sais qu'apparemment, elles ont été à plusieurs reprises à deux doigts de fermer l'établissement.
Ah ouais.
Et justement, je ne sais pas exactement quelle année l'école a fermé, mais quand elles l'ont laissé pour que puisse s'installer l'ITEP, c'est principalement, je crois, pour des raisons financières.
Hein. D'accord.
Denise Bergon, je vais dire juste quelques mots, est née en 1912. Elle est née pas loin, elle est née à Cap-de-Nac. Cap-de-Nac-Gare,
oui,
tu vois.
Oui.
Elle avait 30 ans, tout juste, en 1942, donc elle était assez jeune. Elle s'éteint le 4 février 2006 à Toulouse, à l'âge de 94 ans.
Ah, bien.
Et en fait, dès que les religieuses ont quitté Massip, elles sont venues, moi je suis du monastère, sous Rodez,
ouais.
Elles sont venues au couvent du monastère, et quand le couvent du monastère a été vendu, la communauté, les quelques sœurs qui restaient, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3 ou 4, je crois, sont parties rejoindre leurs sœurs à la communauté de Toulouse. C'est pour ça qu'elle est morte, à Toulouse. Alors, elle a été décorée, elle a quand même reçu de très belles médailles, oui, pour ses actions. Elle a été décorée de la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1979, de la croix d'officier de l'Ordre national du mérite en 1997, des palmes académiques et de la médaille de la reconnaissance française.
Ah.
Le 20 octobre 2013, une salle de réunion de la sous-préfecture de Villefranche-de-Rouergue a été baptisée Salle Denise Bergon.
Ah, bien.
Ouais, ça, c'est pareil, un bel hommage. Alors, la chapelle et la fameuse cachette peuvent se visiter.
Oui.
Mais comme les locaux se trouvent dans un établissement scolaire spécialisé, c'est un petit peu compliqué.
Mm.
Si, chers auditeurs, ça vous intéresse de vous rendre sur place, n'hésitez pas à téléphoner, alors peut-être pas à l'ITEP, hein, mais à la mairie,
oui,
ou à l'office de tourisme.
D'accord.
Pour voir comment vous pouvez faire. Je crois qu'il y a une association qui peut vous ouvrir, qui peut vous expliquer, qui peut vous faire visiter. Donc n'hésitez pas. Lors de notre réunion, la municipalité a annoncé que des projets étaient en cours d'étude. Donc ça peut être encore très long, mais la mairie commence à regarder, en fait, pour créer un espace mémoriel et d'exposition qui sera vraiment mieux ouvert et beaucoup plus adapté à la visite. Parce que vraiment, ce lieu mérite, ouais, qu'on parle de lui, qu'on fasse mémoire et qu'on vienne le visiter. Vous pouvez retrouver l'histoire de ces enfants de Massip également dans 2 livres.
Ouais.
Le premier s'appelle « Nos enfants de la guerre » de Jean-Pierre Denis. Et puis, il y a également une très très belle bande dessinée, édition vraiment de luxe, assez épaisse, très très belle, avec des beaux dessins. Isidore et Simone, juifs en résistance. Mmh. Cette bande dessinée a été dessinée par Remedium et elle a été écrite par Simon Louvel, qui était présent. Simon Louvel était présent lors de notre réunion. Il nous a présenté son livre, il nous en a parlé, il nous a fait une séance de dédicace aussi. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que pas le dessinateur, mais les 2 écrivains de ces 2 livres, en fait, sont des descendants des enfants juifs survivants,
ouais,
de Massip.
Ah ouais, dis donc.
Voilà,
ouais,
donc c'est vraiment quelque chose de très beau.
Mm.
Donc voilà, pour ces enfants de Massip et ce très très beau lieu, pas très loin de Rodez, aux portes du Lot, à côté de Cap-de-Nac-Gare.
Eh ben, merci beaucoup, Vincent, pour ce nouveau partage de mémoire, d'informations, de savoir. Pour cette 48e émission de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez.
La 50e, elle s'approche à grands pas. Hein.
Ouais, là, c'était déjà la dernière de l'année. On va se retrouver en 2024.
Là, c'est la dernière de l'année. Ouais. Je vais prendre un petit peu de vacances.
Eh ben, c'est bien. Profites-en bien. Moi aussi, hein, c'est prévu parce que là, je suis un peu enrhumé. Je sais pas si...
Moi, limite, ouais. Bah. Ça...
Passe de bonnes fêtes, Vincent.
Ben, passez de très bonnes fêtes à toutes et à tous. Et on se retrouve l'année prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.